beaucoup, hein, tout le monde.
Je passe la parole à Daniel Obono.
Excuse-moi.
C'est compliqué ce truc-là.
Je vais faire rapide parce que je pense que les sens, tout a été dit, quasiment tout, mais peut-être apporter, bon d'abord les salutations de Sarah Legras qui ne pouvait pas être là, mais nous sommes les deux députés du 19e. Il se trouve que moi je suis aussi à la commission des lois, donc j'ai participé à la bataille en commission. J'avais déjà été sur le texte de 2018 et donc c'est pas le dernier texte qu'il y a eu sur l'immigration, parce que tout au long du mandat, il y a eu des textes sur cette question-là, en fait, des propositions là-dessus. Et je serai à la commission mixte paritaire, la fameuse commission mixte paritaire de lundi, dont on fera aussi un événement politique, parce que même si la dernière fois qu'on a fait ça, on a été sanctionné par l'Assemblée nationale pour avoir rendu public les discussions, c'était sur le projet de loi, la question de la retraite, peut-être vous vous en rappelez. Mais on fera en sorte aussi de faire connaître ce qui se discute et ce que discutent les uns et les autres, parce qu'en fait tout ce texte est à chaque fois des marchandages entre la droite et l'extrême droite, et on veut faire savoir ça aussi parce que ça participe aussi du rapport de force, notamment dans leur camp, de ceux qui devront ensuite aller voter le lendemain, parce que c'est le lendemain que ça passe au Sénat si la CMP est conclusive. Et il y a des fractures, ça a été dit, il y a des fractures dans la Macronie, au sein de la Macronie, pour celles et ceux qui devront assumer de voter un texte qui a été négocié entre la droite et l'extrême droite. Donc on fera aussi, et je pense que c'est important ce qui a été dit sur à la fois la mobilisation dans la rue, mais on fera aussi à l'intérieur de l'Assemblée, on rendra compte à l'intérieur de l'Assemblée, et aussi pour participer à cette bataille des idées, à cette bataille médiatique, entre guillemets, même si on sait que les médias servent la soupe très allègrement à ce discours. Donc c'est effectivement un moment de mobilisation, et à faire savoir aussi que pour nous, à l'Assemblée dans la bataille parlementaire, le fait de relayer tout ça participe aussi à nous donner à la fois les arguments, parce qu'on fait ce travail-là à partir de tout ce que font les associations, en les ayant auditionnés, en ayant relu, leurs analyses, qui permettent de nous donner les arguments pour faire nous-mêmes nos amendements quand on a la possibilité de l'étudier. Et donc c'est ça aussi qui donne de la force à notre bataille parlementaire, qui essaie aussi de donner de la force à vos mobilisations. Donc voilà, pour vous dire ça, sur lundi, on va être mobilisés en se coordonnant avec les collègues du Sénat aussi, parce que, bon, eux, ils se mettent d'accord, je crois qu'ils ont encore une réunion dimanche, etc. Mais nous aussi, comme on l'a fait aussi sur d'autres textes. Donc, on va faire front commun pour défendre nos idées. Et je pense que cette idée aussi que... le pays n'est pas macronisé ni extrême droitisé, même si l'espace médiatique et le débat public qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de débat public en fait, nous sont imposés des termes d'un débat qui font que quand on demande aux gens est-ce que vous êtes pour expulser les gens très très méchants que sont les étrangers, ben les gens ils vont dire oui, parce que personne n'est pour que les très très méchants continuent à être très très méchants, et en même temps personne ne va dire qu'on est pour laisser mourir les gens en mer, et ça a été dit aussi, et que les gens qui sont là, qui ont des enfants là, ils devraient être régularisés, parce que ça a été dit aussi, les enfants qui vont à l'école, ils croisent et ils sont à l'école avec d'autres enfants, et les gens, personne n'est pour que, y compris dans nos quartiers, quand on a vu, et ça aurait pu, et ça peut toujours être instrumentalisé, mais même quand il y a eu des campements dans la rue, les riverains, quand ils se mobilisaient, alors des fois il y avait des paroles un peu dans tous les sens, mais ce qui les indignait, c'est de voir des gens sur les trottoirs, et ils interpellaient les pouvoirs publics pour dire ce n'est pas normal qu'il y ait ces choses-là. Et donc je pense que pour nous, c'est un point d'appui, même si ce n'est pas ce qui est dit dans le débat politico-médiatique tel qu'il est construit. Je pense que cette idée-là, que dans ce pays, dans ce peuple, il n'y a pas eu la bascule qu'il y a par contre dans les classes dirigeantes, parce que c'est vrai qu'il y a cette bascule dans les classes dirigeantes, dans les classes politiques, économiques et médiatiques. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que ça a été dit, c'est pas juste quelle société on veut, mais qui on est comme société, qui on est comme peuple. Et à chaque fois, quand il y a des abats de ce type, on parle de l'étranger, de l'autre, mais on parle de soi, en fait, en miroir. Et il y a à la fois ce déni de qui on est comme peuple, et ça a été dit, nous sommes un peuple d'immigrés, quelles que soient les générations sur des siècles, et nous sommes un peuple qui est fort de cela. Et donc, c'est aussi dire qui on est, de mettre en avant ce débat-là et d'être à l'offensive. Nous n'avons pas à être sur la défensive, à nous regarder le bout des pieds. C'est ce que essaient de nous faire dire et penser, en fait, notamment les médias au service de la classe dirigeante. Mais nous avons tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet tabou. Et nous aurions tellement mieux à faire et tellement plus de propositions, notamment à partir de l'expérience concrète de celles et ceux qui sont aux côtés, qui accueillent, qui reçoivent, qui hébergent. On sait comment accueillir dignement, ça se fait au quotidien. Donc il y aurait de la matière à faire. Il y aurait de la matière à faire aussi sur nos politiques, les politiques qui aujourd'hui participent aux migrations forcées, participent aux exils, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. Notre inconséquence en termes climatiques, qui fait qu'aujourd'hui, le débat que nous devrions avoir en France, en Europe et au niveau international, c'est comment on s'organise face aux dérèglements qui vont pousser des peuples sur les routes de l'exil, et pas qu'à l'autre bout du monde, parce que ce qui se passe aujourd'hui autour dans le pourtour méditerranéen, ce qui passe aujourd'hui va amener à devoir gérer plus que ce l'est aujourd'hui, parce que voilà, aujourd'hui, c'est une très petite portion de l'humanité qui migre. Ça va augmenter, et donc notre responsabilité serait en fait de se poser ces questions-là, y compris parce que les dérèglements, nous en sommes dans les pays occidentaux. La dette qu'on paye aujourd'hui, c'est celle l'industrialisation occidentale. Donc voilà, en fait, je voulais rajouter ces éléments pour mettre dans le débat, pour expliquer que c'est pas à nous de rendre des comptes, c'est à celles et ceux qui font des politiques depuis 30-40 ans, qui vont dans le même sens, qui vont dans le mur, qui ne créent que du désordre. Et oui, c'est normal que les gens n'aiment pas le désordre, c'est normal que les gens aient peur du désordre, mais ceux qui créent le désordre, ce ne sont pas les personnes précaires, vulnérables, traumatisées, qui cherchent refuge chez nous. Ce sont les politiques qui font la chasse aux enfants, qui font la chasse aux malades, etc., et qui créent de la souffrance et du malheur. Donc voilà, je voulais rajouter ça, de dire qu'on doit être à notre offensive pour les mettre à l'amende et pour leur dire que nous, nous voulons construire un pays, nous sommes un pays, nous sommes un peuple qui est autre chose que l'image qu'ils donnent, et que c'est dans notre intérêt commun, individuellement et collectivement, pas juste dans l'idée qu'on se fait de ce pays, mais dans notre capacité à faire peuple et à faire face à tous les défis de ce siècle, de accueillir dignement celles et ceux qui décident à un moment donné, qui sont contraints, qui n'ont peut-être pas le choix d'être ici. Et c'est ce discours-là qu'on doit mener dans la bataille. Nous, en tout cas, on va essayer de le faire entendre encore jusqu'au bout, que ce soit la CMP, si elle est conclusive dans le débat. Et le vote n'est pas acquis, même après une CMP conclusive. Donc ça vaut aussi le coup, je finis là-dessus, de continuer à interpeller les députés, d'envoyer des lettres pour remettre la pression sur ceux et celles qui voteront. Et je pense que ça peut jouer. Et de continuer cette bataille, parce qu'on ne lâchera pas l'affaire, parce qu'ils vont continuer à rajouter des restrictions et des politiques discriminatoires dans tous les textes qu'ils pourront. Et donc cette bataille, il faut la continuer. En tout cas, je pense qu'on a... On a les armes intellectuelles, politiques, idéologiques et pratiques très concrètes pour mener cette bataille-là. Et donc, merci à toutes celles et ceux qui ont organisé ce moment d'échange pour s'informer, pour se former et pour repartir à la bataille.
Merci, Daniel. Voilà, c'est le temps des questions et peut-être des interventions.
Qui viennent ici, parce que si on ne pourra pas.
Je fais une précision. Bonsoir. Est-ce que. Ça marche ou pas ?
Ça marche ?
Il faut parler devant.
Vous m'entendez ?
Dites-moi, est-ce que dans cette situation, le 49.3 ne peut pas surgir ? Moi, je ne sais pas. Hein,
Après la décision du Conseil constitutionnel,
j'ai pas très bien compris comment fonctionnait la CMP. À savoir, je sais que comment ont été désignés d'abord les députés et les sénateurs qui y siègent, Et ensuite, vous parlez d'une CNP conclusive ou pas conclusive. Qu'est-ce qui va se passer dimanche, lundi, mardi? Et exactement, je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionne.
Merci beaucoup. Alors, moi, du coup, j'ai deux, trois questions. Est-ce que c'est possible de nous repréciser par...
Sono le 22:30.
Radio Libertaire, salut, bonsoir. Nous sommes de nouveau en direct sur cette fabuleuse antenne qui est Radio Libertaire et c'est le Club de l'Agonie ce soir. The Club of Agonize. Ce soir, donc, sur le 89.4, je suis avec Serge.
Bonsoir, Henrik.
Bonsoir, Serge. Je suis avec Yves également.
Bonsoir.
Tu as oublié quelque chose.
Bonsoir, Henrik.
Oh, voilà. C'est comme dans Drôle de Dame. Bonsoir, je sais. Salut, bonsoir Charlie. Voilà. Donc le club de l'agonie. Non. mieux nommé, enfin mieux connu sous le nom du poste non-radio show, la radio qui n'est plus une émission de radio. Mais ça, vous le savez déjà. Évidemment, si vous écoutez cette antenne depuis déjà un moment, donc c'est vendredi soir, c'est 21h13, un peu en avance, puisque c'est le vendredi où Jérôme Orwell n'est pas là. Ouf, tant mieux, pourrais-je dire. Ah non, ça va, je suis pas aussi... Je suis pas aussi vilain. Et donc, nous voilà de nouveau ensemble pour une émission jusqu'à minuit ce soir, puisque c'est le premier vendredi du soir du mois, pardon. Le premier vendredi, je commence à déjà. On sent l'agonie déjà qui m'a bien entamé et je patauge déjà dans la soupe. C'est le premier vendredi. Donc c'est chourchotte à minuit, donc il y aura un disque zone tampon à partir d'une certaine heure, j'en parlerai plus tard. Puis voilà, bah c'est les présentations. Donc Radio Libertaire, c'est la radio de l'AFA, Fédération Anarchiste Française. C'est le 89.4 sur Omegaer, c'est sur la bande des FM parisiennes. C'est radio-libertaire.org, anarchiste.info, des sites, un site Mixcloud, Radio Libertaire, et des sites pour tous les autres camarades. Et puis, sur le DAB+, le canal 9A. Serge ?
Oui, tu as bien dit les choses.
D'accord.
C'est ça, c'est ça, c'est le canal.
J'ai fini par intégrer le truc. Hein.
Mais sachez qu'on n'est pas obligé de dire le canal, étant donné que quand on a une radio DAB+, on choisit selon le nom de la radio uniquement. Il n'y a pas de fréquence à mettre, quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais.
Pas de fréquence à chercher. Tu cherches juste le nom de la radio, tu as toute la liste des noms de radio et tu choisis Radio Libertaire. Voilà.
Ok, donc... Je dirais dorénavant Radio Libertaire sur le DAB+,
tout simplement.
Ah, formidable.
un petit mot en moins.
Ouais, voilà.
Un petit mot en moins. Des économies de mots.
Ouais, c'est ça, oui. Donc, on va commencer par... Non, pas par toi, Yves. On va commencer par les...
Je me tais.
Non, mais tu vas avoir la parole, on sait très bien que c'est ton émission désormais. Attendez,
non, pas du tout.
Deux petites secondes. Jean...
C'est une émission musicale, peut-être que je devrais chanter mes informations.
J'ai enlevé mon écharpe, j'ai chaud. Bah, si tu pourrais jouer du piano.
Debout.
Oui, debout, oui. Déjà assis, c'est compliqué.
J'ai que 10 doigts.
Je plaisante. Bon. Alors, je voudrais déjà faire une bise à David, à Davou du Ferré Club, qui reçoit mercredi un quasi-homonyme dans son émission, le Ferré Club, Éric Pérez. À une lettre près, c'est moi. Mmh. Sauf que je suis pas un super fan de Léo Ferré, j'aime bien. Mais voilà, donc mercredi prochain, je crois, il me semble que c'est ça, ça sera Éric Pérez, invité de Davou, dans le Ferré Club. Davou, je t'embrasse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais j'aime beaucoup ce garçon. Je crois qu'il m'aime beaucoup aussi. Enfin bref, j'ai besoin d'amour. Moi aussi, je vais chanter debout, là. Ta, ta, là. Donc, désolé, je suis un peu fatigué au bord de l'évanouissement. Alors, Mars féministe à la librairie Publico. samedi 2 mars, demain, de 16h. Donc 2 mars, 16h, et pas 16 mars, 2h. Daphné Dauvillier en concert. Elle chantera son dernier CD recueil de nouvelles, Debout. Justement, on disait qu'on était encore debout. À partir du dimanche 3 jusqu'au 31 mars, une exposition de photos de Monica Jornet. La révolte des femmes chiliennes, et le vernissage, c'est donc le dimanche 3 mars à 17h. Mardi 5 mars, 19h, présentation, débat autour du roman La Traqueuse par Sandrine Malika Charlemagne. Jeudi, c'est intense, hein. C'est très dense. 7 mars, 19h, présentation et débat de La Marge à la frontière de Françoise Ourliac. Ou, je ne sais pas, il y a une sorte de... Il y a une sorte de
d'interf... Oui, c'est un téléphone qui perturbe. Voilà, c'est fait. C'est fait.
C'est lequel? C'était
celui de Yves.
Ah d'accord, voilà. Ok. Je pense que c'est un livre de La Marge à la frontière. Samedi 9 mars, 18h-21h, un DJ set libertaire et féministe, Girls in Noise. Girls in Noise. Dimanche 10 mars, 16h, poème féministe de Monica Jornet. Mardi 12 mars, je vous avais dit c'était intense, que ça allait être intense. 19h, présentation, débat de femmes, chômage et autonomie des droits sociaux pour abolir la précarité et le patriarcat de Odile Merkling. Vendredi 15 mars, 19h, concert. Les femmes auront des noms de fleurs. Bertrand Ferrier chante Mama Bea Tekelski. Et puis, j'en ai encore une dernière. Je cherche dans mes mails. 2 petites minutes. Où est-ce que c'est? C'est là. Non. Ce n'est pas là. Voilà. Et enfin, ah oui, non, j'avais dit samedi 16 mars. Oui, je crois. Non, ah non, pas du tout. Donc, et ensuite, samedi 16 mars, 16h, après-midi, Stig Dyerman. Animé par Thierry Maricourt, présentation du livre Le rire caché de Stig Dyerman de Claude Le Manchec, suivi d'une lecture spectacle de textes de Dyerman. Voilà, j'en ai fini pour les annonces concernant la librairie Publico.
145 rue Amelot.
Ah oui, merci.
Faut préciser quand même de temps en temps.
Oui, au 145 rue Amelot, Paris 11e arrondissement. Et je voudrais juste dire que en parallèle, cette émission également fera un focus sur les artistes femmes pendant tout le mois de mars et en vinyle en plus.
Mm-hmm.
Voilà, la programmation sera
doublement plaisante.
J'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, elle sera quasi exclusivement féminine et en vinyle sans trop de problèmes. Je l'espère, on se retrouve après ça. We'll be right back.
la navet, la navet, la rose, dans les seuls oies, sous oiseaux ils chantent. Dans les herbes navet, la navet, la rose, dans les seuls oies, sous oiseaux ils chantent. Tu réponds à moi toujours non. Quand m'y invite à toi, tout dans un petit cigare. Moi serais bien content, serre à toi et compte-moi. Mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non. À cause fifine, tu réponds à moi toujours non. Quand m'y invite à toi, tout dans un petit cigare. Moi serais bien content, serre à toi et compte-moi. Mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non. M'y arrive là, mon petit mouchoir dans la main. M'y demande à toi si tu veux danser avec moi. T'y pince la lèvre et t'y réponds à moi non. Sinon ça quand m'y vient pour pas dire à moi rien. T'y dévire ton talon à côté de toi. Ton moment dort dans son coin. La belle bien sûr défend à toi et danser avec moi. Moi m'y vois un boug là-bas. Guette à moi en travers. Les mêmes les en train. Avec toi et de petits bonheurs. La glaços, la glaços, la dent gâtée. 6 heures pour ta divine sonnée. Mon pied si la terre dig digue. La glaços, la glaços, la glaços, la dent gâtée. Quand il fait pis porter, douleur maloya m'attraper. Oui, ça douleur maloya m'attraper.
La glaços, la dent gâtée.
Oui, donc les mêmes maloya ça fait bouger.
La glaços, la dent gâtée.
Oui, ça douleur maloya m'attraper.
La glaços, la dent gâtée.
Oui, donc les mêmes maloya ça fait bouger.
La glaços, la dent gâtée.
Oui, ça douleur maloya m'attraper.
La glaços, la dent gâtée.
Oui, donc les mêmes maloya ça fait bouger.
The Postman Radio Show, Radio Libertaire, et je parlerai de la programmation musicale plus tard, où je peux en dire déjà un mot. On a commencé avec le tout dernier titre de Lesco ou Lescope. Ce single était paru en septembre, je ne l'ai pas vu passer parce que ben voilà, il y a tellement de disques que je ne vois pas tout passer. L'album vient de sortir, on s'en écoutera un autre extrait tout à l'heure. Ce soir c'est CD en vrac au fait, hein. Donc il n'y a pas de problème de platine vinyle, pas de problème, désolé, excusez-moi, de platine vinyle ce soir, c'est CD. Et là, c'est une musicienne de la Réunion, si je ne m'abuse quand même. J'avais déjà lu le... C'est ça, Terre là-bas. Et Terre là-bas, c'est... C'est Valérie Chane Teff, accompagnée de Florence Vincenot, sur ce superbe disque qui, en fait, qui rend joyeux quand tu l'écoutes. C'est plein de... Ça paraît être un peu, comment dire, un peu un cliché, mais c'est un disque très joyeux qui met de bonne humeur, voilà. Et puis le reste de la programmation, bon, j'en parlerai plus tard. Mais là, c'est l'heure de l'émission de Yves, qui va commencer à nous enchanter, évidemment, avec ses fabuleux articles.
Et moi, j'aurais quelque chose à dire avant, parce que ça devient effectivement très urgent, puisque ça a lieu en ce moment même.
Ah oui, ben prends. C'est pour ça que tu prends cette voix.
Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, je signale la performance de Laurent Melon dans sa performance intitulée Aime le melon. C'est de la peinture, de la musique et, comme il le dit, des scoopitones. Pas des scopitones, mais des scoopitones.
Oui, comme Scooby-Doo, quoi.
Donc, voilà. C'est Laurent Melon. Il est accompagné par Federico Rodriguez Jiménez. Et donc, du mix au pinceau, Laurent Melon nous invite à. Ce soir, à une soirée de peinture, de musique live et de projection à gogo, dit-il en tout cas, en appliquant la politique du je cherche, donc je trouve, et c'est son seul moyen d'existence. Donc il nous ouvre son cinéma et en première mondiale, il présente un nouveau scoopitone, scoopitographie. Voilà. Ça se déroule actuellement au générateur. Le générateur, c'est pas loin de Paris, c'est juste à une centaine de mètres.
C'est pas loin.
Du 13e arrondissement. C'est au 16 rue Charles Frérot à Gentilly, donc. Métro Place d'Italie plus bus 57. Après, j'ai du mal à lire parce que c'est tout petit. C'est à Gentilly. Le tarif unique est de 5 euros. Donc, par contre, pour avoir des renseignements, c'est très simple, www.legénérateur.com ou bien le site internet personnel de Laurent Melon, le www.laurentmelon.fr. Voilà. J'ai tout dit.
Il a tout dit, Yves.
Ok. Je me suis intéressé au sujet qui intéressait à l'agriculture, quoi, puisque ça fait.
Un moment. Hein.
Et je me suis dit, tiens, je vais taper quota, parce qu'on n'entend plus parler de quota, mais avant, il y avait des quotas. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ce truc? Et. Je me rappelle que dans les années 60, il y avait des distributions de lait qui venaient de l'Europe, lait au chocolat même qui venait de l'Europe, dans les cours, dans les écoles primaires. Et puis ensuite, j'ai tapé ça. Et avant d'avoir eu le temps de taper quota lait, ça m'a mis lait ou sucre. Alors je me suis occupé du lait. J'ai aussi regardé les trucs sur le sucre. Voilà un peu ce que j'en ai déduit. On a une agriculture en France qui est victime de son succès jusqu'en les années 80, disons. La productivité a beaucoup augmenté dans les années 60-80. Il y a eu une sorte de stagnation de la demande, donc des excédents, une saturation des marchés, des stocks très chers à gérer et compliqués à gérer, des stocks de lait, donc des stocks. Je me rappelle qu'il y avait du beurre de la CEE dans les supermarchés. Et donc. Il y a la PAC qui s'est mise en place en 62. D'ailleurs, j'ai regardé PAC sur Internet à l'instant, là. ils disent que c'est lancé en 62. Bon, c'est un article récent, apparemment. Ils disent que les objectifs de la PAC, c'est soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole en garantissant un approvisionnement stable en denrées alimentaires à un prix abordable, assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs de l'Union européenne, contribuer à lutter contre le changement climatique, donc c'est récent, et gérer les ressources naturelles de manière durable, il n'y a pas de date. Préserver les zones rurales et les paysages dans l'ensemble de l'UE. Enfin, préserver l'économie rurale en promouvant l'emploi dans l'agriculture, et l'industrie agroalimentaire et les secteurs associés. Ah, elle apparaît quand même, l'industrie agroalimentaire, j'avais l'impression qu'on était en train de l'oublier. Ça aurait été dommage parce qu'en France, elle fait un chiffre d'affaires de 388 milliards d'euros en 2021, alors que la production agricole européenne, la production de la France, qui est le premier producteur agricole européen, c'est une valeur de production de 88 milliards. C'est un facteur de 1 à 4,4. Donc, je veux bien qu'on parle des agriculteurs et tout ça, mais en fait, le sujet essentiel, il me semble bien que ça pourrait bien porter sur l'agroalimentaire, qui est à la deuxième place en France. 388,8 milliards d'euros en 2021. C'est des chiffres de... Transformation de l'écriture et de la l'agriculture et des consommations alimentaires, publié le 27 février par l'Institut national de la statistique et des études économiques, bref, l'INSEE, et puis AGRES, qui est un service statistique du ministère de l'Agriculture. Et bon, et donc pour revenir un peu à ma petite histoire, là, en 80, donc y avait des excédents. Donc ils ont décidé de mettre des quotas. Histoire de réduire les montagnes de stock. Donc, la conséquence des quotas, c'est que les revenus des agriculteurs ont été bloqués, les charges ont un peu augmenté. Il y avait des pénalités si on ne respectait pas les quotas. Oui. C'était évidemment mal ressenti, les pénalités. Tout le monde adore les pénalités, c'est bien connu. Une conséquence de tout ça, c'est qu'en 10 ans, la moitié des producteurs ont diminué, des producteurs de lait, je veux dire, ont disparu. C'était assez injuste, les quotas laitiers pour les petits producteurs, parce que ceux qui misent en tout cas sur la qualité de produit plutôt que sur le productivisme, les quotas bloquent tout développement de leur activité et rendent leur situation financière au cours du temps délicate. Alors que ça ne pénalise pas du tout les gros exploitants qui peuvent continuer de produire à un niveau relativement élevé, même s'ils doivent aussi se conformer au système des quotas. Alors, ces quotas, ils ont disparu, effectivement. Ils ont disparu il y a quelques années, c'était en 2015, c'est donc assez récent, pour le lait, 2017 pour le sucre, je crois. Je me rappelle bien qu'il y a eu à ce moment-là une chute des cours du lait, parce que avec la disparition des quotas, il y a pas mal d'agriculteurs qui se sont dit, on va faire des affaires, on va augmenter la production de lait, et malheureusement, quand tout le monde fait la même chose, les cours baissent. Mmh. Et donc, après cette abolition des quotas laitiers, qu'est-ce qui se passe? Seules les forces du marché déterminent à présent combien de lait sera produit en Union européenne. Mmh. Et y a l'espoir de fournir des marchés à forte croissance en Asie, en Afrique. Et puis, il y a des inquiétudes à l'époque qui sont la volatilité des prix et puis la destruction de filières locales. L'objectif de la fin des quotas, c'est donner plus de flexibilité aux producteurs de lait pour répondre à la demande croissante, en particulier sur le marché mondial. Avec les quotas, un exemple, c'est que les exportations de lait de l'Union européenne a augmenté de 95% de 2010 à 2015. Par exemple, ce qu'on a exporté vers la Corée, il y a eu doublement des exportations entre 2010 et 2014. Donc, quand il y avait les quotas. Donc, il fallait faire encore plus. Le reproche qu'on faisait aux quotas, donc, c'était d'empêcher les productions européennes de répondre à la demande croissante de produits laitiers sur le marché mondial. Il est question aussi d'un embargo russe dans les années 2014, je pense, qui a forcé la recherche de nouveaux marchés qui seraient utiles après l'abolition des quotas laitiers.
C'est quand il y a eu le problème en Crimée, en fait, que ça...
Probablement, il y a eu une mesure de rétorsion des Russes, c'est possible. Voilà où on était. Et donc, le résultat, quoi, finalement, c'est que y a eu en 1989 d'autres mesures de prise. C'est la stabilisation, des mesures de stabilisateurs agricoles. Il y avait des quantités maximales garanties, qu'ils appellent QMG. Au-delà, si on produisait plus, il y avait une réduction de 3% au cours de la campagne suivante. Et puis, il y a la CEE avait organisé le gel de certaines terres arables. Et puis, néanmoins, dans les années 1993 et 14, il faut se rappeler que les politiques agricoles du monde entier ont été formatées par l'accord général sur les tarifs douaniers et de commerce, le GATT, de 1993, signé à Marrakech en 1994. Et donc, ça a transformé en profondeur, dit un article écrit par M. Gérard Choplin dans Le Monde,
qui est agronome et analyse des politiques agricoles, auteur de Paysans mutins, paysans demain, il dit que ça a transformé en profondeur les conditions de revenus des agriculteurs. Nous sommes passés d'une régulation des prêts agricoles européens à une mise en compétition de toutes les agricultures du monde, confrontées à des prix de marché internationaux fluctuants, soumis à la spéculation et aux aléas naturels et géostratégiques de telle ou telle partie du monde. Le marché unique agricole est devenu un marché mondial, cours de jeu des grandes entreprises de négoce internationales. Donc les règles de 1994 sont toujours en vigueur. Elles sont contraignantes pour les États ou Unions comme pour l'Union européenne. Et après 30 ans, on s'aperçoit qu'elles détruisent les paysanneries du Nord, du Sud, qu'elles ruinent l'environnement, la santé, le climat, en favorisant une agriculture industrialisée et en priorisant l'exportation-importation plutôt que l'approvisionnement régional.
Oui.
Et l'Union européenne, elle se porte très très bien dans ce système. Elle est très gagnante, quoi. C'est le premier exportateur agricole et alimentaire mondial et c'est l'un des premiers importateurs. Donc ça en fait un acteur incontournable et à cet égard, l'Union européenne porte une lourde responsabilité, dit-il, dans la continuation de ses règles néfastes. Or, malgré des milliers d'agriculteurs qui manifestent dans presque tous les États membres pour changer les règles de formation de leurs revenus, l'UE va arriver à Abu Dhabi. Alors pourquoi il parle d'Abu Dhabi, je vais vous dire tout de suite, sans proposition majeure. Parce qu'à Abu Dhabi, actuellement, du 26 au 29 février, donc c'était hier la fin, s'est déroulée dans l'indifférence générale, alors qu'elle pouvait être l'occasion de remettre à plat les règles actuelles du commerce international, destructrices des agricultures du Nord et du Sud, la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Et moi j'en ai pas entendu parler, j'espère que vous avez des meilleures oreilles.
Non.
Mais bon, voilà. Et donc il dit par ailleurs, et ça c'est assez redoutable, que l'OMC est en panne depuis les années 2000, toutes les négociations ayant échoué entre grandes puissances agricoles, celles qui écrivent les règles. Exemple des stocks publics des produits de première nécessité comme les céréales. L'Inde réclame que l'on modifie les règles actuelles qui interdisent le financement public de ces stocks. Pourtant, ça réduirait grandement la spéculation et les grandes fluctuations de prix mortifères pour les agriculteurs. Mais l'UE et les États-Unis ont refusé, malgré l'exemple donné par la guerre russe en Ukraine qui a fait flamber le prix des céréales alors que la récolte mondiale n'avait jamais été aussi bonne et abondante. Mmh. En dehors de la Chine qui s'estime assez puissante comme les États-Unis pour jouer avec les règles, personne n'avait de stock, et surtout pas l'Union européenne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1992, les États-Unis et l'Union européenne étaient fortement critiqués par les États du Sud pour leurs aides à l'exportation. L'UE avait des prêts agricoles européens régulés supérieurs au prix du marché. Donc pour des gens qui avaient supprimé les quotas pour pouvoir vendre à l'extérieur, c'était quand même un peu gênant. Et donc, pour arriver à exporter quand même, eh bien, on devait verser une aide aux exportateurs.
Ah. Ah, oui.
Bon, pour contrer la critique des pays tiers qui criaient à la manipulation, en fait, tout en maintenant leur domination des échanges agricoles mondiaux de l'époque, les États-Unis et l'Union européenne ont opéré une manœuvre simple concoctée lors de leurs négociations bilatérales de Blair House en 1992. Ils ont abaissé les prix internes au niveau mondial. Donc, abaisser les prix internes au niveau mondial en abaissant les droits de douane et en supprimant la régulation des prix internes. Comme les prix mondiaux étaient en dessous des coûts de production, il a fallu compenser la baisse des prix par des aides directes aux producteurs, et ce sont les fameuses aides de la PAC. Donc, pour les produits exportés, celles-ci remplacent donc les aides à l'exportation, avec le même effet de distorsion des échanges, mais cette méthode n'est pas reconnue comme telle dans les règles de l'OMC. Donc là, c'est légal. Donc la PAC, en fait, ça permet de contourner le problème que nos prix n'étaient pas compétitifs, on donnait des aides à l'exportation, c'est contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Moralité, on baisse les prix de revient de façon relativement organisée entre l'UE et puis les Américains. On se retrouve donc avec des prix très bas qui nous permettent d'exporter. Et puis, pour payer les agriculteurs, on leur donne de l'argent de la PAC. Et donc, les agriculteurs européens ont donc vu leur prix abaisser au niveau du moins-disant mondial pour le plus grand profit de l'agro-industrie et de la distribution qui s'approvisionne à bon marché. Les agricultures du Sud, eux, font face à des importations à bas prix qui concurrencent déloyalement leur développement. Voilà. Donc, y a un problème avec la logique des règles actuelles du commerce international qui est de favoriser les importations et les exportations. Et l'UE, donc, dit cet article écrit par M. Gérard Chopin. Et l'UE est un très bon élève. On exporte, on importe de plus en plus. On signe des accords de libre-échange. Il y en a un récemment avec le Pérou, je crois. Et le Chili. Les paysans disparaissent, la planète brûle, la biodiversité s'effondre, et donc il faudrait revoir les règles générales.
C'est revoir les règles générales. Et si, une question toute bête, chaque pays, effectivement, consommait ce qu'il produit dans le pays dans lequel il réside, c'est-à-dire, je pense que tu peux me comprendre, Yves. C'est-à-dire que on a des produits en France, on a suffisamment de produits, donc il est inutile de faire importer des
Et il est inutile d'exporter également.
Voilà, aussi.
Si,
voilà, inutile d'importer, inutile d'exporter, et puis on mange, parce qu'on a ce qu'il faut sous la main, il n'y a pas besoin d'exporter, il n'y a pas besoin d'importer.
Oui, mais comme tu as peut-être compris, les aides de la PAC, elles ne s'adressent pas à nos agriculteurs qui nous fournissent à manger. D'ailleurs, eux, ils ont des surfaces qui sont de l'ordre... Tiens, j'ai mis mon article. Ils ont des surfaces qui sont de l'ordre de... Qu'est-ce que j'ai foutu ?
Qu'est-ce que t'as foutu ?
Ils ont des surfaces qui sont de l'ordre de... Alors, on a une baisse de 2,3 par an entre 2010 et 2020, et on a actuellement 389 000 exploitations. En parallèle, les exploitations agricoles... se sont agrandies entre quelle date et quelle date, c'est ça mon problème. Bon, elles sont passées de 55 à 69 hectares, maintenant 69, donc en moyenne. Mais les disparitions, c'est une moyenne. On sait déjà que la médiane, on avait repéré une semaine précédente, c'est 38 hectares. Autrement dit, la moitié des paysans ont une exploitation agricole de taille, une SAU inférieure à 38 hectares, et l'autre moitié supérieure à 38 hectares. Il y a un quart des exploitations agricoles qui se partagent 1% de la surface agricole utile. 1% pour un quart des exploitations. C'est le premier quartile, autrement dit. Et 5% des plus grandes ont une superficie supérieure à 214 hectares et s'octroient 25% de la surface agricole utile. Donc, forte disparition. On a beau parler moyenne, c'est pas un paramètre qui représente vraiment la réalité.
Non, parce qu'il y a des gens, des exploitants trop riches, en tout cas trop grands, et des exploitants trop petits. Il n'y a pas d'intermédiaire, apparemment.
Ce qu'ils disent en plus, c'est que la réduction du nombre d'exploitations agricoles s'accompagne d'une spécialisation accrue. C'est-à-dire le modèle de la polyculture-élevage ne concerne plus que 10% des fermes et un tiers de ces dernières n'ont plus qu'une seule production. Et donc l'emploi agricole suit cette spécialisation. Il décroît dans les exploitations de grandes cultures et les élevages bovins laitiers où la mécanisation et l'automatisation réduisent le recours à la main-d'œuvre. À l'inverse, il se concentre sur des exploitations viticoles et arboricoles très gourmandes en travail saisonnier. Logiquement, l'INSEE estime que l'emploi agricole est en forte baisse en France. Il ne pèse plus que 3% contre 9% en 1980. L'agriculture et l'agroalimentaire ne représentent plus que 3,5% du PIB contre 6% en 1980. Toutefois, donc l'INSEE et Agresse mettent en exergue le fait que la France reste le premier producteur agricole commun, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une valeur de production de 88,2 milliards d'euros en 2022. Et elle revendique également la deuxième place du podium en agroalimentaire avec un chiffre d'affaires estimé à 388,8 milliards d'euros. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le revenu annuel médian des ménages agricoles, c'est 22 800 euros
par an
en 2020, soit 1900 euros net par mois. Il explique, c'est Laurent Girard qui a écrit un article qui rend compte de ce rapport à Grest. Elle explique de quelle manière s'est formé ce nombre. Le montant médian ne différait pas en 2020, en tout cas, qui est la date de l'étude, de celui de la population qui est 22 400 contre 22 800. C'est un peu plus élevé pour les agriculteurs. Là où le secteur agricole se distingue, c'est dans le plus grand étalement du spectre des revenus. 10% des ménages agricoles les plus pauvres touchent moins de 10 900 euros, soit moins que les 10% des ménages français les plus pauvres. Par contre, les plus riches, les 10% les plus riches, gagnent plus de 44 600 euros par an, ce qui est plus que la même tranche de la population. Et 16% des ménages agricoles entrent dans la catégorie pauvreté monétaire, contre 14% des ménages français. Donc, le taux de pauvreté, dont je rappelle qu'il est 60% du revenu médian de la population, c'est-à-dire ça correspondait en 2020 à 1162 euros, si je ne me suis pas trompé dans mon petit calcul, c'était une division, ça devrait être dans mes cordes. Le taux de pauvreté, donc, c'est plus fort pour, il est le plus fort pour les maraîchers, à presque 25% de taux de pauvreté. Les éleveurs ovins, 23%, les éleveurs de bovins, 21%. À l'inverse, les taux de pauvreté est beaucoup plus bas dans les rangs des viticulteurs, 11%. De toute manière, eux, ils ont augmenté leur surface de production de, ils ont multiplié par plus de 3 la surface en une, je ne sais plus en combien d'années, c'est dans le temps, mais enfin bon, c'est assez bizarre. Dans les grandes cultures comme les céréales, les betteraves et les pommes de terre, c'est 12,2% des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Les éleveurs porcins et les volailles, 13,5%. Ou même au sein d'une même filière, les écarts de revenus sont forts. Les filières de production sont également soumises à une variabilité au gré des années, évidemment, c'est l'agriculture, hein. Mais l'excédent brut d'exploitation des fermes, donc leur capacité à dégager des résultats positifs, varie fortement pour les productions céréalières et l'élevage porcin, mais reste toujours supérieur à celui de l'élevage de bovins à viande plus stable dans le bas du tableau. Voilà, donc les faibles revenus de nombre d'agriculteurs les incitent souvent à acheter l'éponge. Le nombre de fermes a donc baissé de 2,3% entre 2010 et 2020. Voilà.
Et pourquoi les producteurs, enfin les propriétaires d'ovins sont beaucoup plus riches? Pourquoi?
C'est pas ce que j'ai lu. Il s'agissait de taux de pauvreté.
D'accord.
T'as rien compris.
Les éleveurs de bovins, ils ont un taux de pauvreté 21,5%.
Ce que je voulais dire, c'est ça, les bovins, oui.
25%, 23%, 21% pour toutes, pour les maraîchers, les ovins caprins et les bovins à viande. Mm-hmm. Bon, en gros, c'est 22% quoi, enfin, un peu plus pour l'ensemble. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup, quoi.
Oui.
Ça fait un revenu de 1 000 euros par mois. 1162, bon, ne chipotons pas. Ça peut être moins.
Allez, pause.
Why does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey, focus.
Is this how it went?
No, it's different now.
You've been on my mind recently.
Yeah?
Because you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So, this specific person, the remarkable nobody,
I've also had that experience.
Do you have a picture?
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah. There's like 100 messages. Somebody wants to interview me.
This is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic.
Why me? I don't know. I'm special, I guess.
How does it feel to go viral?
Who's actually had a dream about me?
scaring me, Paul. I'm going to have nightmares.
I wish I was the one people were dreaming about.
Me too.
Yeah.
No, it's something.
How's he dealing with all this?
We're not even the type of people that like attention, you know?
Do you think other people are seeing you naked?
Maybe thousands.
I hope I'm behaving through your dreams.
Oh, no, you're not.
So I'm finally cool, huh?
I didn't say that.
You hear that, Janet? She's saying I'm a cool dad.
Oh, yeah.
I really feel like you're playing with fire here.
Dad, please help me!
I'm not actually doing anything to them.
You know, fame can come with some less desirable side effects. You should be prepared for that.
Maybe we should cool this thing off.
What? What do you mean?
It's embarrassing.
Which part?
I guess I'll see you in my dreams.
Yeah. So of course not.
Logic.
is no logic, and there 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 is no logic.
De poste de poste non radio show Radio Libertaire, le club de l'agonie.
J'ai une suite.
Non, attends, stop. Oui. Avant que je sois trop. Alors là, c'était. Je présente quand même. Ce super morceau, Lone Lady, There is no logic. Il n'y a pas de logique. Ça me semble tout à fait approprié. Cet extrait d'une double compilation CD du magazine anglais Electronic Sound qui date de 2021. Le disque tampon, alors je le présente maintenant avant que je ne puisse plus, comme je viens de le dire, parce que je suis extrêmement fatigué.
Ah.
Alors c'est dû à mon état.
Ah, je croyais que c'était de ma faute.
Non, non, je ne passe pas ma vie en boîte de nuit à taper de la coke, des extas, puis ensuite à faire des descentes et des remontées, et avoir une vie absolument délirante. Pas du tout, j'ai une vie de vieillard. C'est suite à ma maladie qui m'a laissé des séquelles extrêmement graves. Voilà. Donc, vous savez tout, chers auditeurs, auditrices, tous, toutes. Le disque tampon que nous allons écouter tout à l'heure, entre nous et Chourchotte, c'est un groupe allemand que je ne connaissais absolument pas. Radio Noise Ensemble. Un album qui s'appelle Universe. Un disque paru en 1982 et sur le label Ubu Music. Alors c'est allemand. Réédité en 2009 par le label Garden of Delight, dont le logo est une jolie fleur, une jolie feuille, pardon, de cannabis sativa. Et alors ce label qui a, dont Garden of Delight a eu pour enfin sa priorité, sa raison d'être a été de ressortir un tas de groupes des années 70-80, en particulier allemands, et aussi quelques-uns, je crois, des pays de l'Est, et puis peut-être d'autres, parce qu'il n'y a pas de provenance précisée. Et le catalogue est assez conséquent. Ils ont réédité un tas, comme je le disais, comme je viens de le dire, un tas de groupes, à part, c'est quoi cette espèce d'interférence que j'entends là ?
Je ne sais pas.
J'éloigne mon téléphone.
Bah, on essaye d'éloigner tous nos téléphones.
Oui, éloignez tous vos téléphones, s'il vous plaît. À part Radio Noise Ensemble que j'ai acheté, j'ai dans les 149 sorties de ce label, j'ai reconnu Magma.
Ah, donc
français, donc c'était pas exclusivement, mais des tas de groupes comme Shiloha, Pentagon, Prom, Albatros, Brainstorm, Erna Schmidt, Guru, Gzol, Opossum, Amandoul, je connais. Bref, de la musique instrumentale, folk, médiévale, synthétique également, du rock progressif, psychédélique. Et nous écouterons l'album Inivers, qui est plutôt, qui est complètement instrumental, plutôt donc avec un côté médiéval, un peu arabisant, orientalisant. Cet album est accompagné également de quelques titres en live, mais on s'écoutera plutôt les six morceaux de l'album studio. Et voilà, c'est une belle découverte. C'est très très sympa, très agréable à écouter. C'est assez curieux. Je ne connaissais pas du tout ce label, je ne connaissais pas du tout la plupart de ces groupes. C'est génial. Le monde de la musique est un monde infini, tentaculaire, absolument génial en fait.
Est-ce qu'on vient d'entendre, c'est très très sonné années 80 quand même.
Ouais, pourtant c'est très récent.
Ah, d'accord.
C'est très récent.
Je ne sais pas ce qui se passe.
D'où viennent ces interférences?
Je ne sais pas.
Est-ce qu'on peut me dire?
Je ne sais pas.
J'ai éloigné mon téléphone.
J'ai éloigné mon téléphone aussi.
J'ai rapproché mon téléphone, désolé.
Non, ouais, pas forcément lui. Okay. Peut-être. Hein? Peut-être que c'était toi, peut-être que c'était autre chose. Hein.
Bon, on va peut-être écouter un morceau avant que tu entames ton autre...
Un gros morceau de... Oui, avant qu'on s'entame un gros morceau de d'article.
Non, ce qui suit, c'est les conséquences de ces accords.
D'accord.
Thank you. saw surgery. The castle.
Was ist das hier?
Arbeitet an etwas.
Letztlich geht es darum, in welcher Welt leben wir?
Und ich denke, es ist nicht zu gewagt, wenn ich sage, wir haben es hier mit einem zukünftigen Nobelpreisträger zu tun.
Je vous connais.
Quand tu étais petit, la forêt entière aurait pu brûler à cause de toi.
Comment qu'en es-tu cette histoire?
Il y a des choses que je sais, c'est tout.
Wir sind auf der Spur noch ein paar Männer. Die wohnen unter dem Berg in all die geheimen Gänge. Sie stecken hinter allem.
Wir halten es für unwahrscheinlich, dass es sich bei diesem Unfall um einen Unfall handelt.
Es reißen sich zusammen!
Wer ist Karin?
On dirait que vous avez vu un fantôme.
Was für eine Villen haben Sie wirklich hier gesucht?
Fais attention, Marines.
You.
The post non radio show.
Voilà, c'était la fin du morceau.
Le club de l'agonie ce soir, Radio Libertaire. Nous avons entendu deux bandes annonces de films vus. Tout d'abord, Dream Theory de Christopher Borgli, sorti il n'y a pas très longtemps avec John Cage. Des films qui distordent de la réalité ou qui sont pas très loin d'une dimension parallèle, on pourrait dire. Et c'est le cas également d'Universal Theory de Tim Kroger, sorti tout récemment la semaine dernière. Excellent film sur les écrans si vous avez envie de les voir. Dream Scenario donc et Universal Theory, ça c'est les films que j'ai aimé ces derniers temps, toujours sur cette thématique de la distorsion de réalité, dimension parallèle. Dimension parallèle avec Yves.
Cette façon de présenter les choses.
Ouais.
Je veux bien.
Non, mais il nous replonge dans une triste réalité affreusement emmerdante.
C'est très compliqué de se faire une idée de la réalité. Là, par exemple.
C'est, oui. Je confirme parce que. Il y a un tel amoncellement de nouvelles qui se contredisent parfois les unes, enfin, pour la même information, c'est assez étrange, on est absolument embourbé dans un truc.
On a des discussions sans fin sur les plateaux de télévision où j'entends jamais les choses que j'ai racontées. C'est ce qui est une façon de tourner en rond, ces débats-là. Bon, le truc sur la PAC que j'ai lu, qui vient de la Commission européenne, j'ai dû taper sur Internet la PAC, et en fait, le site précis, c'est https://agriculture.uc.europa.eu/common-agricultural-policy/cap. Bon, mais il suffit de taper la PAC en bref, et vous tombez sur le... Sur un site de l'Union européenne, donc. Et ça m'a intéressé également parce qu'ils décrivent donc la PAC 2023-2027 et ils disent la PAC dans la pratique, l'agriculture diffère, c'est assez didactique sans doute, l'agriculture diffère de la plupart des autres activités pour les raisons suivantes. Malgré, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a des pages et des pages, mais c'est pour vous montrer à quoi ressemble ce site. Malgré l'importance de la production alimentaire, les revenus des agriculteurs sont inférieurs d'environ 40% aux revenus non agricoles. Bon, c'est quand même un peu choquant avec ce que je viens de lire un instant dans cet excellent article de Madame Laurent Girard, qui a fait un article dans Le Monde du 29 février, donc, et qui racontait que justement les revenus médians des ménages agricoles ou pas agricoles, c'est à peu près semblable à 100 ou 200 euros près, disons. Mais par contre, il y avait des fortes disparités sur les 10% des ménages agricoles les plus pauvres et qui touchent moins que les 10% des ménages français, et à l'inverse, les 10% les plus riches qui gagnent plus de 44 600 euros par an, plus que la même tranche de la population. Bon, c'est assez flou, disons, ces 40% de tissus. Bon, c'est un peu... Donc, je vais arrêter de parler de cette présentation de la PAC par l'Europe, parce que ça ne m'apporte pas grand-chose. Je vais reciter la personne qui a écrit cet article, qui s'appelle « Entre les ménages agricoles, des inégalités de revenus criantes ». C'est page 15 du Monde du 29 février. Et donc, Madame Laurent Girard. J'avais également cité Monsieur Gérard Choplin. Je voudrais insister sur ce qui est remarquable. Il est agronome, analyste des politiques agricoles, auteur de Paysans mutins, paysans demain pour une autre politique agricole européenne, aux éditions Yves Michel en 2017. Donc il n'a pas attendu la crise pour se faire une idée.
Pour se faire une idée de quoi ?
Pour se faire une idée des problèmes, puisque c'est lui qui.
Non, mais ça fait un moment qu'il dure les problèmes. Hein.
Bah, ils n'étaient pas aussi apparents que ça, disons.
Bah là, ils éclatent. Hein.
J'ai ensuite...
Enfin, tout éclate à la gueule de tout le monde.
Hein. J'ai ensuite un article toujours dans Le Monde.
De toute façon, tout va aller de mal en pire.
Cette fois-ci du 1er mars.
Ouais, super.
Monsieur Choplin également, c'était dans Le Monde du 1er mars, page 26, dans la page ID. Tout ça, c'est dans la page... C'est économie et entreprise pour l'une et page ID par ailleurs, dans Le Monde, donc... il s'agit d'un article de Maxime Combes. Maxime Combes, il est chargé des politiques commerciales à l'Association internationale de techniciens, experts et chercheurs qui travaillent sur les politiques de développement. Et il rappelle que les traités commerciaux profitent d'abord à l'agro-business. Je ne vais pas vous lire l'ensemble, mais il note par exemple que les échanges internationaux de produits agroalimentaires ont progressé de 7% par an environ en termes réels entre 2001 et 2019. Selon l'OCDE. Cette mondialisation agricole et alimentaire a progressé plus vite que l'économie mondiale. Alors, il donne un certain nombre d'exemples, parce que, en fait, nous constatons que seuls les effets de ces accords sur le monde agricole français et européen ont obtenu un certain écho médiatique. Ce qui fait qu'il y a une sorte de message à sens unique. Il faudrait protéger l'agriculture européenne de la concurrence déloyale des agricultures non européennes, comme si l'accord de l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce entrait dans l'OMC de pays majeurs tels la Chine en 2001, la Russie en 2012, et l'accumulation des accords bilatéraux et régionaux entrés en vigueur ces 30 dernières années avait épargné les mondes agricoles des pays tiers, notamment ceux des pays du Sud. Et comme si les exportations agricoles européennes n'avaient pas de conséquences sur les marchés des pays avec lesquels la France et l'UE commercent. Alors, il donne des exemples. Il y a eu un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique entré en vigueur en 1994. Et au bout de 10 ans de mise en œuvre, le Mexique avait perdu 2 millions d'emplois dans le secteur agricole. Et il s'était créé, puisque c'est, hein, il y a un truc de création-destruction, bon, les grandes théories, il s'était créé seulement 700 000 créations d'emplois dans le secteur manufacturier. Ça, ce sont des faits, ça. Ça n'a pas donc compensé la perte de 2 millions d'emplois, d'après l'économiste Sandra Polanski. S'ajoute à cela une perte de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que le Mexique, un pays dont sont originaires des centaines de variétés de maïs, est devenu de plus en plus dépendant des importations de maïs venant des États-Unis, qui atteignent désormais l'équivalent de 60% de sa production nationale. Ensuite, il y a un autre exemple qui montre que les exportations européennes contribuent eux aussi à déstabiliser les filières alimentaires, fragilisant certaines formes d'agriculture vivrière et donc la sécurité alimentaire de plusieurs pays du Sud. Il y a un exemple documenté archi-connu qui mérite d'être répété, dit M. Maxime Combes. Les exportations de découpes de volailles congelées qui sont non consommées en Europe vers des pays africains à des prix bradés et qui ont déstabilisé de nombreux marchés avicoles comme au Sénégal, laissant exsangues les systèmes productifs locaux. Au point que des besoins locaux sont désormais là aussi dépendants des importations et fluctuations des marchés mondiaux. Parce que tout ça marche à la bourse. Il en est de même pour des produits laitiers. La surproduction chronique de lait en Europe est notamment écoulée vers les marchés ouest-africains sous forme de poudre écrémée, réengraissée à l'huile de palme. Ah. Elle peut coûter jusqu'à 30% moins cher que le lait local, comme l'a démontré l'Oxfam. Le Burkina Faso, le Nigeria et le Sénégal ont déjà vu leurs besoins en lait couverts par la production nationale diminuer respectivement de 80% à 70% pour le Burkina Faso, de 41% à 20% pour le Nigeria et de 33% à 21% pour le Sénégal, ce entre 2000 et 2021. C'est une étude de l'ONG GRET et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement de 2023. Par ailleurs, les accords de commerce que l'Union européenne a imposés au Ghana, vous entendez parler de ça des fois, vous ?
Non.
Et à la Côte d'Ivoire.
Je ne connais pas le Ghana.
Et à la Côte d'Ivoire d'un côté et au Kenya de l'autre, vont encore aggraver la situation dans les régions concernées. La mise en concurrence de systèmes agricoles aux compétitivités totalement asymétriques quant au prix généré par l'accumulation des accords de libre-échange n'a pas pour seul effet l'éviction des producteurs les moins compétitifs. Autrement dit, il n'y a pas seulement ceux qui n'y arrivent pas dégagent, quoi. Elle rend d'autant plus difficile la mise en œuvre de politiques visant à protéger les productions jugées vitales ou stratégiques et mises en danger par cette compétition internationale féroce. C'est l'expérience de la Colombie à propos de la guerre des frites. J'explique. Depuis la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et ses voisins, le Pérou et l'Équateur, en 2013, les frites surgelées bon marché belges, néerlandaises et allemandes déferlent en Colombie. Colombie, qui est l'un des pays qui est la patrie de la pomme de terre. Pour protéger la production locale de pommes de terre, Bogota a introduit une petite taxe douanière de 8%. À la demande de l'industrie agroalimentaire européenne, Bruxelles a décidé de poursuivre la Colombie devant l'OMC et a gagné. La Colombie, dont sont originaires tant de variétés de pommes de terre, est sommée de supprimer cette entrave au commerce et donc d'aggraver sa dépendance aux importations en provenance de l'UE, quitte à voir ses producteurs locaux disparaître. Dans ce monde merveilleux du libre-échange, une frite industrielle réfrigérée qui parcourt 10 000 km a plus de valeur qu'une pomme de terre locale. Alors, les exemples, dit cet article de Maxime Combes, pourraient s'enchaîner sans fin.
Le libre-échange qui nous est inventé est une véritable arnaque.
C'est grave, oui.
C'est une arnaque. Le libre-échange est une arnaque.
Bah, c'est pas tellement...
Bah, si. Si.
Oui, c'est-à-dire qu'avec les règles actuelles du commerce, l'Union européenne et les autres États ont perdu d'une part leur souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit à définir leur politique agricole et alimentaire sans nuire aux pays tiers, tel que ça a été défini par le mouvement paysan international La Via Campesina en 2003. La souveraineté alimentaire, qui est donc un droit et un devoir, n'est pas à confondre avec l'autosuffisance et encore moins avec une capacité d'exportation. Mais oui, nous avons perdu la décision, puisque c'est les grands groupes agroalimentaires, enfin l'apport-export, qui décide. Je termine cet article, je vais reprendre sur autre chose ensuite, mais plus proche de nous, ce qui est grave également, c'est que c'est un processus d'internationalisation et de mise en concurrence des systèmes agricoles qui conduit immanquablement à générer une pression à la baisse sur les prix et les normes d'un côté et à mettre en danger des écosystèmes et le climat de l'autre. Immanquablement, car les producteurs pour survivre sont conduits à devoir effectuer des économies d'échelle, intensifier démesurément les productions, accroître l'utilisation d'intrants, engrais et pesticides, mais aussi accepter un découplage entre la production et la commercialisation et un rallongement des filières. Alors les gagnants étant de leur part de marché, notamment l'agro-industrie, les perdants fournissent l'exode rural et la pression démographique sur les centres urbains des pays du Sud. L'exemple du Mexique l'atteste. Les paysans disparaissent et avec eux des productions vivrières fondamentales et la souveraineté alimentaire de régions, poussant des milliers d'entre eux à émigrer vers les États-Unis. Voilà pour ces quelques exemples. L'article poursuit en disant que ce n'est pas une fatalité, que les appels des agriculteurs européens à être protégés de la concurrence déloyale sont légitimes, mais ça ne saurait justifier des mesures unilatérales qui viennent aggraver la situation agricole des pays tiers. Quand on écoute la FNSEA et le gouvernement, ça donne le sentiment qu'ils souhaiteraient continuer à exporter les productions françaises les plus compétitives, souvent les plus nocives pour l'environnement et à l'origine des déstabilisations des marchés agricoles des pays du Sud, et protéger celles qui pâtissent de la concurrence. C'est pas tenable. Quelques mesures miroirs, par ailleurs quasiment impossibles à mettre en œuvre, n'y suffiront pas. C'est un réexamen en profondeur des politiques commerciales qui est nécessaire. Au mi-temps des années 2000, les mouvements paysans de plusieurs pays du Sud ont bloqué les projets de libéralisation complète des marchés agricoles de l'OMC. Il est temps de refermer cette parenthèse de libre-échange qui détruit les régulations publiques et livre l'agriculture aux seules forces du marché et l'agro-business. Et c'est possible. Il s'agit d'organiser ce commerce par des régulations qui garantissent la durabilité, l'équité et la sécurité alimentaire, garantir la rémunération juste des agriculteurs, protéger les droits des consommateurs, réduire l'impact écologique et sanitaire de l'agriculture, voilà qui exige des régulations publiques fortes, ici et dans les pays tiers, que les accords de libre-échange empêchent le plus souvent. Ceux en cours de négociation doivent être abandonnés et ceux en vigueur réexaminés à cette aune. Voilà la leçon qui devrait être tirée de la mobilisation agricole, dit M. Maxime Combe. Donc, j'ai pas résisté à citer la majorité partie de ce qu'il écrit, et dans le Monde du vendredi 1er mars. Je suis content qu'il y ait un journal comme Le Monde, Le Figaro, vous faites peut-être aussi des choses de ce genre-là, mais je ne le lis pas, dans la page idées. Parce que ça explique pas mal de choses. C'est des gens qui sont spécialistes de ces sujets et qui nous apprennent beaucoup par rapport aux médias, mais pas aux médias télévisés exactement. Malheureusement, ces médias télévisés, enfin la presse écrite n'est plus lue que pour 10%, 11% des gens en France, qui est quand même assez embêtant.